comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 81. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Que vos craintes me causent de pitié. Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous. Et vous voulez m'enseigner, me conduire. Ah, mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi. Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles. Être orgueilleux et faible, il te sied bien de vouloir calculer mes moyens et juger de mes ressources. Au vrai, vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur, et je ne puis vous le cacher. Que pour masquer votre incroyable gaucherie auprès de votre présidente, vous m'étaliez comme un triomphe d'avoir déconcerté un moment cette femme timide et qui vous aime, j'y consens. D'en avoir obtenu un regard, un seul regard, je souris et vous le passe. Que, sentant malgré vous le peu de valeur de votre conduite, vous espériez la dérober à mon attention, en me flattant de l'effort sublime de rapprocher deux enfants qui, tous deux, brûlent de se voir, et qui, soit dit en passant, doivent à moi seul l'ardeur de ce désir, je le veux bien encore. Qu'enfin vous vous autorisiez de ces actions d'éclat pour me dire d'un ton doctoral qu'il vaut mieux employer son temps à exécuter ses projets qu'à les raconter, cette vanité ne me nuit pas et je la pardonne. Mais que vous puissiez croire que j'ai besoin de votre prudence, que je m'égarerais en ne déférant pas à vos avis, que je dois alors sacrifier un plaisir, une fantaisie, en vérité, vicomte, c'est aussi vous trop enorgueillir de la confiance que je veux bien avoir en vous. Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé mille fois? Vous avez séduit, perdu même, beaucoup de femmes. Mais quelles difficultés avez-vous eu à vaincre? Quels obstacles à surmonter? Où est le mérite qui soit véritablement à vous? Une belle figure, pur effet du hasard. Des grâces que l'usage donne presque toujours. De l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon suppléerait au besoin. Une impudence assez louable, mais peut-être uniquement due à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens. Car pour la célébrité que vous avez pu acquérir, vous n'exigerez pas, je crois, que je compte pour beaucoup l'art de faire naître ou de saisir l'occasion d'un scandale. Quant à la prudence, à la finesse, je ne parle pas de moi. Mais quelle femme n'en aurait pas plus que vous? Votre présidente vous mène comme un enfant. Croyez-moi, vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer. Combattant sans risque, vous devez agir sans précaution. Pour vous autres hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre et votre malheur de ne pas gagner. Quand je vous accorderai autant de talents qu'à nous, de combien encore ne devrions-nous pas vous surpasser, par la nécessité où nous sommes d'en faire un continuel usage? Supposons, j'y consens, que vous mettiez autant d'adresse à nous vaincre, que nous à nous défendre ou à céder, vous conviendrez au moins qu'elle vous devient inutile après le succès. Uniquement occupé de votre nouveau goût, vous vous y livrez sans crainte, sans réserve. Ce n'est pas à vous que sa durée importe. En effet, ces liens réciproquement donnés et reçus, pour parler le jargon de l'amour, vous seul pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre. Heureuse encore si dans votre légèreté, préférant le mystère à l'éclat, vous vous contentez d'un abandon humiliant et ne faites pas de l'idole de la veille la victime du lendemain. Mais qu'une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, quel risque n'a-t-elle pas à courir si elle tente de s'y soustraire, si elle ose seulement la soulever? Ce n'est qu'en tremblant qu'elle essaie d'éloigner d'elle l'homme que son cœur repousse avec effort. S'obstine-t-il à rester ce qu'elle accordait à l'amour, il faut le livrer à la crainte. Ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé. Sa prudence doit dénouer avec adresse ces mêmes liens que vous auriez rompus. À la merci de son ennemi, elle est sans ressources, s'il est sans générosité. Et comment en espérer de lui, lorsque, si quelquefois on le loue d'en avoir, jamais pourtant on ne le blâme d'en manquer. Sans doute, vous ne nierez pas ces vérités que leur évidence a rendues triviales. Si cependant vous m'avez vu, disposant des événements et des opinions, faire de ces hommes si redoutables le jouet de mes caprices ou de mes fantaisies, ôtez aux uns la volonté, aux autres la puissance de me nuire. Si j'ai su tour à tour et suivant mes goûts mobiles, attaché à ma suite ou rejeté loin de moi, ces tyrans détrônés devenus mes esclaves. On ne sait si ces vers, ainsi que celui qui se trouve plus haut, ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé, sont des citations d'ouvrages peu connus, ou s'ils font partie de la prose de Madame de Merteuil. Ce qui le ferait croire, c'est la multitude de fautes de ce genre qui se trouvent dans toutes les lettres de cette correspondance. Celles du chevalier d'Anceny sont les seules qui en soient exemptes. Peut-être que, comme il s'occupait quelquefois de poésie, son oreille plus exercée lui faisait éviter plus facilement ce défaut. Si, au milieu de ces révolutions fréquentes, ma réputation s'est pourtant conservée pure, n'avez-vous pas dû en conclure, née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi? Ah, gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire qui se disent à sentiment, dont l'imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leur sens dans leur tête, qui, n'ayant jamais réfléchi, confondent sans cesse l'amour et l'amant, qui, dans leur folle illusion, croient que celui-là seul avec qui elles ont cherché le plaisir en est l'unique dépositaire, et vraies superstitieuses ont pour le prêtre le respect et la foi qui n'est dû qu'à la divinité. Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin consentir à se faire quitter. Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté, que vous nommez sensibles, et dont l'amour s'empare si facilement et avec tant de puissance, qui sentent le besoin de s'en occuper encore, même lorsqu'elles n'en jouissent pas, et, s'abandonnant sans réserve à la fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres si douces, mais si dangereuses à écrire, et ne craignent pas de confier ces preuves de leur faiblesse à l'objet qui les cause. Imprudentes, qui, dans leur amant actuel, ne savent pas voir leur ennemi futur. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées? Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites, et manquer à mes principes? Je dis mes principes, je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité des discours qu'on s'empressait à me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'a appris encore à dissimuler. Forcée souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonnée. J'étais bien jeune encore et presque sans intérêt. Mais je n'avais à moi que ma pensée, et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Muni de ces premières armes, j'en essayais l'usage. Non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûre de mes gestes, j'observais mes discours. Je réglais les uns et les autres, suivant les circonstances, ou même seulement suivant ma fantaisie. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne montrais plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention sur l'expression des figures et le caractère des physionomies, et j'y gagnais ce coup d'œil pénétrant auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement, mais qui, en tout cas, m'a rarement trompée. Je n'avais pas 15 ans. Je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs. Mais, n'ayant jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie, et surveillée par une mère vigilante, Je n'avais que des idées vagues que je ne pouvais fixer. La nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentait. Je ne désirais pas de jouir, je voulais savoir. Le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet, sans me compromettre, était mon confesseur. Aussitôt, je pris mon parti. Je surmontai ma petite honte. En me vantant d'une faute que je n'avais pas commise, je m'accusai d'avoir fait tout ce que font les femmes. Ce fut mon expression. Mais en parlant ainsi, je ne savais en vérité quelle idée j'exprimais. Mon espoir ne fut ni tout à fait trompé, ni entièrement rempli. La crainte de me trahir m'empêchait de m'éclairer. Mais le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême. Et au désir de le connaître succéda celui de le goûter. Je ne sais où ce désir m'aurait conduite. Et alors, dénuée d'expérience, peut-être une seule occasion m'eût perdue. Heureusement pour moi, ma mère m'annonça peu de jours après que j'allais me marier. Sur le champ, la certitude de savoir éteignit ma curiosité, et j'arrivai vierge entre les bras de M. de Merteuil. J'attendais avec sécurité le moment qui devait m'instruire, et j'eus besoin de réflexion pour montrer de l'embarras et de la crainte. Cette première nuit, dont on se fait pour l'ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu'une occasion d'expérience. Douleur et plaisir, j'observais tout exactement, et je ne voyais dans ces diverses sensations que des faits à recueillir et à méditer. Ce genre d'étude parvint bientôt à me plaire, mais, fidèles à mes principes, et sentant peut-être par instinct que nul ne devait être plus loin de ma confiance que mon mari, je résolus, par cela seul que j'étais sensible, de me montrer impassible à ses yeux. Cette froideur apparente fut par la suite le fondement inébranlable de son aveugle confiance. J'y joignis, par une seconde réflexion, l'air d'étourderie qu'autorisait mon âge. Et jamais il ne me jugea plus enfant que dans les moments où je le jouais avec plus d'audace. Cependant, je l'avouerai, je me laissais d'abord entraîner par le tourbillon du monde, et je me livrais tout entière à ces distractions futiles. Mais au bout de quelques mois, M. de Merteuil m'ayant mené à sa triste campagne, la crainte de l'ennui fit revenir le goût de l'étude. Et ne m'y trouvant entouré que de gens dont la distance avec moi me mettait à l'abri de tout soupçon, j'en profitais pour donner un champ plus vaste à mes expériences. Ce fut là, surtout, que je m'assurais que l'amour que l'on nous vante comme la cause de nos plaisirs n'en est au plus que le prétexte. La maladie de M. de Merteuil vint interrompre de si douces occupations. Il fallut le suivre à la ville, où il venait chercher des secours. Il mourut, comme vous savez, peu de temps après. Et, quoiqu'à tout prendre, je n'eusse pas à me plaindre de lui, je n'en sentis pas moins vivement le prix de la liberté qu'allait me donner mon veuvage, et je me promis bien d'en profiter. Ma mère comptait que j'entrerais au couvent ou reviendrais vivre avec elle. Je refusai l'un et l'autre parti. Et tout ce que j'accordais à la décence fut de retourner dans cette même campagne où il me restait bien encore quelques observations à faire. Je les fortifiais par le secours de la lecture, mais ne croyez pas qu'elle fût toute du genre que vous la supposez. J'étudiais nos mœurs dans les romans, nos opinions dans les philosophes. Je cherchais même dans les moralistes les plus sévères ce qu'ils exigeaient de nous, et je m'assurais ainsi de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on devait penser et de ce qu'il fallait paraître. Une fois fixé sur ces trois objets, le dernier seul présentait quelques difficultés dans son exécution. J'espérais les vaincre et j'en méditais les moyens. Je commençais à m'ennuyer de mes plaisirs rustiques, trop peu variés pour ma tête active. Je sentais un besoin de coquetterie qui me raccommoda avec l'amour, non pour le ressentir à la vérité, mais pour l'inspirer et le feindre. En vain m'avait-on dit, et avais-je lu, qu'on ne pouvait feindre ce sentiment. Je voyais pourtant que, pour y parvenir, il suffisait de joindre à l'esprit d'un auteur le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres, et peut-être avec quelque succès. Mais au lieu de rechercher les vains applaudissements du théâtre, je résolus d'employer à mon bonheur ce que tant d'autres sacrifiaient à la vanité.
so hard living with the things you do to me. Oh, my things are getting so strange. I like to tell you everything I see. She's the passionate one.
Oh, yeah, it's like lightning. Everybody was frightening. But the music was soothing. And they all started grooving.
Yeah.
And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a money. And it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over. When you appear, there's nothing left in you. Uh-huh.
Now the man at the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the corner is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye.
Oh, yeah, it was electric.
Un an se passa dans ces occupations différentes. Mon deuil me permettant alors de reparaître, je revins à la ville avec mes grands projets. Je ne m'attendais pas au premier obstacle que j'y rencontrais. Cette longue solitude, cette austère retraite avait jeté sur moi un vernis de pruderie qui effrayait nos plus agréables. Ils se tenaient à l'écart et me laissaient livrer à une foule d'ennuyeux qui tous prétendaient à ma main. L'embarras n'était pas de les refuser. Mais plusieurs de ces refus déplaisaient à ma famille, et je perdais dans ces tracasseries intérieures le temps dont je m'étais promis un si charmant usage. Je fus donc obligé, pour rappeler les uns et éloigner les autres, d'afficher quelque inconséquence et d'employer à nuire à ma réputation le soin que je comptais mettre à la conserver. Je réussis facilement, comme vous pouvez croire. Mais n'étant emporté par aucune passion, je ne fis que ce que jugeais nécessaire et mesurai avec prudence les doses de mon étourderie. Dès que j'eus touché le but que je voulais atteindre, je revins sur mes pas et fis honneur de mon amendement à quelques-unes de ces femmes qui, dans l'impuissance d'avoir des prétentions à l'agrément, se rejettent sur celles du mérite et de la vertu. Ce fut un coup de partie qui me valut plus que je n'avais espéré. Ces reconnaissantes duègnes s'établirent mes apologistes, et leur zèle aveugle pour ce qu'elles appelaient leur ouvrage fut porté au point qu'au moindre propos qu'on se permettait sur moi, tout le parti prude criait au scandale et à l'injure. Le même moyen me valut encore le suffrage de nos femmes à prétention, qui, persuadées que je renonçais à courir la même carrière qu'elles, me choisirent pour l'objet de leurs éloges, toutes les fois qu'elles voulaient prouver qu'elles ne médisaient pas de tout le monde. Cependant, ma conduite précédente avait ramené les amants, et pour me ménager entre eux et mes fidèles protectrices, je me montrais comme une femme sensible mais difficile, à qui l'excès de sa délicatesse fournissait des armes contre l'amour. Alors je commençais à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. Mon premier soin fut d'acquérir le renom d'invincible. Pour y parvenir, les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont j'eus l'air d'accepter les hommages. Je les employais utilement à me procurer les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à l'amant préféré. Mais celui-là, ma feinte timidité ne lui a jamais permis de me suivre dans le monde, et les regards du cercle ont été ainsi toujours fixés sur l'amant malheureux. Vous savez combien je me décide vite. C'est pour avoir observé que ce sont presque toujours les soins antérieurs qui livrent le secret des femmes. Quoi qu'on puisse faire, le ton n'est jamais le même, avant ou après le succès. Cette différence n'échappe point à l'observateur attentif, et j'ai trouvé moins dangereux de me tromper dans le choix que de le laisser pénétrer. Je gagne encore par là d'ôter les vraisemblances, sur lesquelles seules on peut nous juger. Ces précautions, et celles de ne jamais écrire, de ne livrer jamais aucune preuve de ma défaite, pouvaient paraître excessives et ne m'ont jamais paru suffisantes. Descendue dans mon cœur, j'y ai étudié celui des autres. J'y ai vu qu'il n'est personne qui n'y conserve un secret qui lui importe, qui ne soit point dévoilé. Vérité que l'Antiquité paraît avoir mieux connue que nous, et dont l'histoire de Samson pourrait n'être qu'un ingénieux emblème. Nouvelle Dalila, j'ai toujours, comme elle, employé ma puissance à surprendre ce secret important. De combien de nos Samson modernes ne tiens-je pas la chevelure sous le ciseau? Et cela, j'ai cessé de les craindre. Ce sont les seuls que je me sois permis d'humilier quelquefois. Plus souple avec les autres, l'art de les rendre infidèles pour éviter de leur paraître volage, une feinte amitié, une apparente confiance, quelques procédés généreux, l'idée flatteuse et que chacun conserve d'avoir été mon seul amant, m'ont obtenu leur discrétion. Enfin, quand ces moyens m'ont manqué, j'ai su, prévoyant mes ruptures, étouffer d'avance, sous le ridicule ou la calomnie, la confiance que ces hommes dangereux auraient pu obtenir. Ce que je vous dis là, vous me le voyez pratiquer sans cesse, et vous doutez de ma prudence. Eh bien, rappelez-vous le temps où vous me rendîtes vos premiers soins. Jamais hommage ne me flatta autant. Je vous désirais avant de vous avoir vu. Séduite par votre réputation, il me semblait que vous manquiez à ma gloire. Je brûlais de vous combattre corps à corps. C'est le seul de mes goûts qui ait jamais pris un moment d'empire sur moi. Cependant, si vous eussiez voulu me perdre, quel moyen eussiez-vous trouvé? De vains discours qui ne laissent aucune trace après eux, que votre réputation même eût aidé à rendre suspect, et une suite de faits sans vraisemblance, dont le récit sincère aurait eu l'air d'un roman mal tissé. À la vérité, je vous ai depuis livré tous mes secrets, mais vous savez quels intérêts nous unissent, et si de nous deux, c'est moi qu'on doit taxer d'imprudence. Puisque je suis en train de vous rendre compte, je veux le faire exactement. Je vous entends ici me dire que je suis au moins à la merci de ma femme de chambre. En effet, si elle n'a pas le secret de mes sentiments, elle a celui de mes actions. Quand vous m'en parlâtes jadis, je vous répondis seulement que j'étais sûre d'elle. Et la preuve que cette réponse suffit alors à votre tranquillité, c'est que vous lui avez confié depuis, et pour votre compte, des secrets assez dangereux. Mais à présent que Prévan vous donne de l'ombrage et que la tête vous en tourne, je me doute bien que vous ne me croyez plus sur parole. Il faut donc vous édifier. Premièrement, cette fille est ma sœur de lait, et ce lien qui ne nous en paraît pas un n'est pas sans force pour les gens de cet état. De plus, j'ai son secret, et mieux encore. Victime d'une folie de l'amour, elle était perdue si je ne l'eus sauvée. Ses parents, tout hérissés d'honneur, ne voulaient pas moins que la faire enfermer. Ils s'adressèrent à moi. Je vis d'un coup d'œil combien leur courroux pouvait m'être utile. Je le secondai et sollicitai l'ordre que j'obtins. Puis passant tout à coup au parti de la clémence auquel j'amenais ses parents et profitant de mon crédit auprès du vieux ministre, je les fis tous consentir à me laisser dépositaire de cet ordre et maîtresse d'en arrêter ou demander l'exécution suivant que je jugerai du mérite de la conduite future de cette fille. Elle sait donc que j'ai son sort entre les mains, et quand, par impossible, ses moyens puissants ne l'arrêteraient point, n'est-il pas évident que sa conduite dévoilée et sa punition authentique ôteraient bientôt toute créance à ses discours ? À ces précautions que j'appelle fondamentales, s'en joignent mille autres, ou locales ou d'occasion, que la réflexion et l'habitude font trouver au besoin, dont le détail serait minutieux, mais dont la pratique est importante, et qu'il faut vous donner la peine de recueillir dans l'ensemble de ma conduite, si vous voulez parvenir à les connaître. Mais de prétendre que je me sois donné tant de soins pour n'en pas retirer de fruits, qu'après m'être autant élevé au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elles dans ma marche, entre l'imprudence et la timidité, que surtout que je puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite ? Non, vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. Quant à Prévan, je veux l'avoir et je l'aurai. Il veut le dire et il ne le dira pas. En deux mots, voilà notre roman. Adieu.